plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Henri-Georges Clouzot et ses mystères avec Noël Herpe, Philippe Dupuis et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il était détesté autant qu'estimé, il aimait lui-même se peindre en misanthrope, tyran sadique et tortionnaire d'actrices et d'acteurs, et aussi en démiurge obsessionnel. Henri-Georges Clouzot était tout cela à la fois et bien plus encore. Hitchcock français, maître du suspense, admiré par Hollywood, qui produisit d'ailleurs 3 remakes de ses films, le raconteur d'histoires virtuoses, le peintre de la noirceur de l'âme humaine, était un perfectionniste fétichiste, un pessimiste angoissé et insomniaque, grand satiriste de la France de l'après-guerre et de ses veuleries misérables, fin mécanicien du comportement humain et de ses jeux de massacre. Tout cela, bien sûr, on le voit dans ses films qui ressortent en ce moment en salle et en DVD, de L'Assassin habite au 21 jusqu'à La Prisonnière, en passant par Le Corbeau qui fit un scandale avant de devenir un classique incontournable du cinéma français comme Quai des Orfèvres, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, La Vérité ou Le Mystère Picasso. On le voit aussi dans ses films plus oubliés et à redécouvrir d'urgence, Miquette et sa mère, Manon, ou encore le sketch Le Retour de Jean dans le film collectif Retour à la vie, qui préfigure 15 ans avant les réflexions d'Anna Arendt sur la banalité du mal et même le mésestimé Les Espions. Mais tout cela, on le voit aussi et on le comprend 40 ans après sa mort dans la passionnante exposition que lui consacre depuis mercredi la Cinémathèque française à la faveur de l'exploitation d'un fonds d'archives acquis il y a 5 ans par la Cinémathèque. Celui qui fut longtemps considéré comme l'incarnation la plus achevée de cette qualité française que la nouvelle vague devait abattre pour mieux pouvoir déferler, se révèle un expérimentateur inquiet et un chercheur d'absolu. Plan Large vous invite à une visite guidée du mystère Clouzot avec son commissaire Noël Herpe, historien du cinéma, écrivain et lui-même cinéaste, et le dessinateur Philippe Dupuis, un des artistes invités à donner leur vision de Clouzot dans une autre exposition, Clouzot et les arts plastiques, qui ouvrira la semaine prochaine. Ils sont accompagnés de Ntebin, qui en fin d'émission nous fera découvrir la face la plus cachée de l'œuvre d'Ernst Lubitsch, celle muette de sa période allemande.
Alors je tourne, foutez-moi la paix.
Nous voici à l'entrée de la galerie des donateurs de la Cinémathèque française avec un petit panneau d'explication qui précise qu'il n'est pas si évident que ça de faire une exposition, une rétrospective Clouzot à la Cinémathèque française. Clouzot est-il sorti du purgatoire de la cinéphilie, comme il est écrit au début du catalogue, un article récent dans un hebdomadaire culturel bien connu du directeur actuel de la Cinémathèque française reprend un certain nombre des reproches faits à Clouzot, un certain nombre de vieilles lunes. Noël Herpe, pas si évident que ça, Clouzot à la Cinémathèque française?
Bah, pas si évident que ça, parce qu'en effet, il a l'image d'un cinéaste classique qui n'aurait sans doute, soi-disant, pas bouleversé les formes et qui s'en serait tenu à un cinéma de papa, hein, pour reprendre les clichés qu'a en effet repris cet article récent. En fait, ce qu'on a voulu montrer, donc c'était un projet qui a été formé avec Serge Toubiana puis avec Frédéric Bonneau à partir d'un fonds d'archives que la Cinémathèque française a acheté il y a quelques années au Secours catholique qui avait hérité des archives d'Henri-Georges Clouzot. Et je me suis aperçu en me plongeant dans ces archives qu'il y avait vraiment de quoi faire une exposition. Donc j'ai plaidé aussi cette cause parce que c'est un autre Clouzot qui apparaît. C'est un Clouzot chercheur de forme, un Clouzot expérimentateur qui avait déjà révélé en grande partie le film de Serge Bromberg sur l'enfer. Mais là, on voit tous les scénarios non tournés, on voit la recherche d'expérimentation qui s'exprime non seulement à travers les projets comme La Prisonnière ou L'Enfer, c'est-à-dire ces grands films réflexifs des années 60, mais aussi son rapport à la collection de peinture, son rapport à la photographie, puisque là c'est un peu un scoop de l'exposition. On va découvrir un Clouzot photographe qui, pour un livre qui devait être publié dans les années 60, juste après l'échec de L'Enfer, photographie beaucoup de femmes dénudées en studio, fait des effets de solarisation, des jeux sur la couleur, donc est dans une espèce d'ambition de se renouveler absolument totale, qui est complètement à contre-courant de cette image de cinéaste classique qu'on veut lui coller dessus. Alors certes, il a eu des grands succès dans les années 50 et 40 avec des films de narration traditionnelle, mais on s'aperçoit en même temps, et c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans l'expo, en fait, on commence par la fin, et par le côté recherche formelle, pour remonter un peu en amont et pour montrer que toute cette recherche picturale, cette ambition de la forme, ce souci d'abstraction même, sont déjà présents dans son cinéma classique. Par exemple, je me suis amusé à faire des captures d'écran, un peu comme un nerd, comme ça, sur mon ordinateur, et à isoler des images comme ça où il y a une picturalité latente dans Quai des Orfèvres, dans l'Assassin Bito 21, dans Le Corbeau, et on s'aperçoit que c'est déjà composé qui comme un Balthus, qui comme un Vuillard, qui comme un Picasso. Évidemment, avec entre la période classique et la période réflexive, c'est ces deux massifs fascinants que sont le film sur Picasso et le film sur Karajan, qui sont des films où là, il commence à se dédoubler, à se mettre en miroir à travers des grands artistes qui se mettent en scène et qu'il met surtout lui-même en scène. Voilà. Mais il y a aussi un aspect qui est passionnant dans ces archives et que j'ai voulu un peu valoriser dans l'exposition. C'est les cahiers de Clouzot, dans Georges Clouzot. Parce qu'on s'aperçoit qu'à la fin de sa vie, après le moment où après que l'enfer s'est arrêté, il a comme ça une période de latence, il fait des photos, c'est pas trop quoi faire. D'ailleurs, La Prisonnière qui marche pas tellement. Et il y a quand même une quinzaine d'années où il est là. En plus, il a été très dépressif après la mort de sa femme Vera. Donc il y a des carnets où il fait des listes, où il fait des listes de noms, des listes de titres. Il s'interroge sur le suspense, il revoit les films de Hitchcock et même de Truffaut. Il y a une espèce de masochisme vertigineux à s'interroger sur les lois de son métier. Lui qui était un des cinéastes français les plus célèbres et les plus reconnus dans le monde entier. Je trouve que c'est totalement, encore une fois, à l'encontre de l'image d'un Clouzot sûr de lui, maître de sa création. C'est en même temps quelqu'un qui doute et qui réfléchit sur sa pratique.
Bon, ça suffit comme ça. Passons aux travaux pratiques. Vous habillez-vous ? Ah non, ce serait trop facile. Laissez tomber la jupe. Remontez-la très lentement. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Alors, très symptomatiquement, effectivement, Noël Herp, vous commencez cette exposition par la fin, dans une démarche quasiment téléologique. On va expliquer toute l'œuvre par la fin et par les derniers films. Donc, dans cette salle qui s'appelle Réfléchir l'art, celle qui va notamment travailler sur le projet inachevé de l'enfer, bien connu maintenant grâce au film de Serge Brombert, et à La Prisonnière. Et on commence en effet par les recherches photographiques de Clouzot, qu'on ne connaissait pas du tout. Ce sont des études de nu qui auraient presque pu être prises par le galeriste photographe fétichiste de La Prisonnière, où des corps de femmes sont presque découpés et où des ombres ou des motifs de barreaux viennent les enfermer et faire d'elles déjà des prisonnières.
Les entraver, oui. Il y a ce jeu sur l'entrave, sur le cadre contraignant, sur la fenêtre, sur la prison, sur la grille, qui est obsédant chez Clouzot, qui évidemment est présent dans son cinéma d'avant, mais qui l'attend vers une espèce d'abstraction. Il y a comme une sorte de décomposition du corps, au fur et à mesure des tirages, qui aboutit comme ça à une abstraction qu'il n'atteint pas forcément d'ailleurs, car je pense qu'il est assez marqué en même temps par un contenu figuratif auquel il ne veut pas tout à fait renoncer, et aussi marqué par les avant-gardes des années 20, sans doute, comme Man Ray et autres expérimentateurs par lesquels il était influencé. Donc il y a à la fois cette volonté d'aller vers une certaine forme de cinétisme qu'on va retrouver dans son cinéma, les avant-gardes photographiques des années 20, c'est quelqu'un qui est un peu à la croisée des chemins, qui fait ce livre pour Christian Bourgois, en fait, qui lui avait fait cette commande. Ça devait s'appeler La femme coupée en morceaux. Et ça va pas aboutir. Mais j'invite les chercheurs à se plonger dans les archives de la Cinémathèque, parce que là, je montre dans l'exposition une faible partie des centaines de clichés qui se trouvent dans ces archives et qui montrent le côté à la fois obsessionnel et perfectionniste inlassable de Clouzot, qui va faire des dizaines d'essais de solarisation sur une femme montant un escalier, par exemple, pour arriver à trouver exactement la forme absolue. Il y a cette idée chez lui qu'on peut trouver une sorte de forme parfaite et qui en même temps rejoindrait une certaine figure de vérité. C'est déjà la recherche de son cinéma de fiction, mais ça, on retrouve encore cette nostalgie de la vérité dans sa recherche formelle de la fin, et je trouve que cette contradiction est assez bouleversante.
Le rapport de Clouzot à l'art de son temps est assez étrange. On a ici les essais bien connus maintenant sur le visage de Romy Schneider et qui évoquent l'opart et l'art cinétique des années 60. Et vous venez de le dire, Noël Herp, je ne sais pas quel regard porte Philippe Dupuis ou Entebbe sur ces images. Il est dans une démarche de l'avant-garde des années 20 sur un art contemporain des années 60. C'est une démarche assez curieuse et on ne sait trop ce qu'il veut faire de cet art, s'il a un regard surplombant en disant « Regardez, voici l'art qu'on vend dans les supermarchés des galeries de l'époque », comme il le dira dans La Prisonnière, ou s'il essaye lui-même de retrouver formellement dans son cinéma les avancées de l'opart et de l'art cinétique des années 60, Entebbe.
Bah, moi, je trouve que ce qui est frappant, c'est la contradiction ou le paradoxe de Clouzot par rapport à ce qu'on appelle la modernité. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'un des malentendus qui persiste sur son cinéma. C'est-à-dire qu'il était lui-même peut-être un cinéaste classique, mais obsédé par la modernité, y compris une modernité qui avait pu s'exprimer des décennies avant, et on a parlé de Man Ray tout à l'heure, et qui, au fil des années, est devenue classique. Et à la fois, il recherche des formes nouvelles, et en même temps, il recherche des formes parfaites. Donc, il y a une sorte de contradiction là-dedans, mais qui aurait dû en plus plaire à la cinéphilie française des années 50 et 60, puisque on a souvent dit, c'est le cliché, que c'est le Hitchcock français, mais il partage avec Hitchcock beaucoup, non seulement d'obsessions, mais aussi de parti pris formels, de recherches, aussi d'attitude vis-à-vis de ses équipes ou des acteurs, etc. Et c'est un auteur complet. C'est-à-dire il a toujours revendiqué le cinéma comme un art où, en plus, contrairement à Hitchcock, il écrivait lui-même, où il coécrivait ses scénarios. Il a commencé par là. Donc voilà, c'est l'athlète complet, c'est l'auteur complet. Son problème, c'est peut-être d'avoir été français. À une époque où c'était surtout les grands cinéastes américains qui étaient montés en épingle comme auteurs. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des nombreux paradoxes.
Alors Philippe Dupuis, comment est-ce que vous regardez ces travaux, ces essais, ces recherches plastiques de Clouzot à l'époque de l'Enfer et de la Prisonnière, et qu'on voit dans cette salle centrale de la Galerie des Donateurs de la Cinémathèque française?
Moi, je trouve que c'est vraiment un des gros intérêts de cette exposition, c'est de nous faire découvrir un Clouzot qui est un artiste à part entière et qu'en plus c'est un artiste protéiforme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de renoncements. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une envie d'être un artiste, un plasticien. Je crois pas me tromper en disant qu'il est allé au début, quand il rencontre Picasso, il veut faire de la peinture. Et Picasso et lui parlent peinture. J'ai lu un extrait où Picasso lui raconte comme ça que pour faire un portrait, il faut pas regarder la personne, mais oublier et ensuite le dessiner de mémoire. Donc il y a tout ce dialogue-là qu'il va retrouver en faisant le mystère Picasso. Mais ce que je vois là, effectivement, dans les photos, dans les films, c'est des expériences plastiques. Donc moi, je suis pas sûr qu'il ait un regard sur l'art qui l'entoure à l'époque comme quelque chose de... Je sais pas s'il le considère vraiment comme ringard ou quelque chose de supermarché. Je pense qu'au contraire, c'est un bidouilleur, c'est quelqu'un qui cherche des formes. Clouzot, qui est connu pour ses films, avait peut-être envie, lui, d'être photographe quand on voit les photos, ou peintre, ou plasticien, ou quelqu'un qui va être plus à faire des installations. Et le côté très français, c'est ces barrières qu'il y a quand même en France, qu'il y a toujours eu, qui sont toujours là. C'est qu'un artiste, il doit se consacrer, on essaie de l'identifier. Donc un cinéaste est un cinéaste, un peintre est un peintre, un écrivain est un écrivain, un photographe est un photographe. Quand on commence à être plus dans plusieurs modes, c'est pas très bien ressenti. Donc on peut effectivement se demander ce qui serait devenu d'un Clouzot s'il avait été américain, s'il était né américain.
On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous.
Clouzot va essayer, par le cinéma, pour le coup, de percer le mystère de la création artistique, filmer le geste, c'est le deuxième élément de cette exposition, Noël Herpe, où est projeté sur le mur le mystère Picasso, des photogrammes des films réalisés avec Ariane, on entend la bande-son derrière des petits dialogues qu'il y a entre Picasso et Clouzot, c'est un des rares films de Clouzot où on voit Clouzot, enfin il y en aura un autre dont on parlera tout à l'heure, et puis on voit la reproduction sur les murs de ces dessins réalisés au feutre américain, extrêmement fragile, hein. On ne sait pas l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'essaye vraiment de faire Clouzot à ce moment-là avec le mystère Picasso et ses films sur Karajan, Noël Herpe?
Je crois qu'il essaie justement donc de filmer le geste, c'est-à-dire de donner à voir la création artistique comme quelque chose qui se verrait, hein, comme quelque chose qui laisserait une trace. En ça, je le trouve assez proche de Sacha Guitry d'ailleurs. Hein. Il croit franchement. Enfin, peut-être sincèrement que le génie de Picasso réside dans sa main, dans le mouvement de sa main.
Sacha Guitry qui avait filmé les artistes de son temps
dans ceux de chez nous. Oui. Chez nous, et oui. On retrouve un peu cette démarche très datée d'ailleurs, très très. Et en même temps, qui est un peu le début du cinéma comme média culturel, hein, qui annonce la télévision. On aura plus tard un portrait assez semblable de Georges Mathieu par François Reichenbach, etc. Les films de Jean-Christophe Averty sur Dali. Donc c'est vraiment le début de cette espèce d'idée que l'audiovisuel, hein, un mot qu'on commence à employer dans les années 50, peut montrer le secret du geste artistique. Pareil pour Karajan. Hein, Karajan est mis en scène dans ses pompes et dans ses œuvres avec un côté extrêmement théâtral. Il donne des leçons à un jeune chef d'orchestre. Il parle un peu sur la montagne avec Menuhin, etc. Donc il y a ce côté sublime. Hein. Il faut surtout pas que l'artiste descende de son piédestal, mais il faut au contraire le montrer comme une sorte de Moïse qui donnerait à voir son propre génie. Hein. Bon, c'est une vision évidemment qu'on peut critiquer, mais en même temps elle m'intéresse parce qu'elle elle recoupe le cinéma de fiction de Clouzot et sa réflexion sur la vérité. C'est-à-dire, derrière chaque encre que fait Picasso sur l'écran, il y a peut-être l'œuvre définitive. On croit que ça va être l'œuvre définitive. On se dit, ça y est, on est tranquille, on est rassuré, on est assis dans son fauteuil. On se dit, ah, c'est merveilleux, Picasso. Ah, ben non, c'est pas ça, c'est encore autre chose, et encore autre chose. Et la vérité est une spirale sans fin qui ne se termine jamais, un peu comme à la fin des Diaboliques avec le petit garçon qui s'éloigne dans la cour et qui dit, ben, je sais bien que je l'ai vu, moi, je l'ai vu, etc. Donc, voilà, il y a ce trou, il y a toujours ce trou sans fin, ce trou sans fond, ce tonneau des Danaïdes chez Clouzot qui fait que la forme qui semble lisse, recèle un abîme.
Et puis on a un Clouzot qui est grand maître des effets de dramaturgie et de suspense, et Ntebin dans le mystère Picasso, il y a un suspense incroyable dans ces plans fixes qui filment le dessin en train de se faire. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer.
C'est justement, je pense que c'est moins un film sur la peinture que sur le cinéma. Et c'est presque une sorte d'autoportrait par transfert de Clouzot qui essaie de dire des choses sur le statut du créateur, mais aussi sur les doutes, parce que c'était quand même quelqu'un qui était rongé de doutes. Il y a un petit livre aussi qui ressort, compilé par Claude Gauter, sur l'œuvre fantôme, c'est-à-dire tous les projets inaboutis de Clouzot. Et effectivement, cette espèce de millefeuille, mais aussi, il y a dans le mystère Picasso, une sorte de jalousie, je crois, ou d'envie. Dans un documentaire réalisé par Pierre-Henri Gibert, il y a une collaboratrice et amie de Clouzot qui dit le seul manque de Clouzot en tant que créateur, c'était qu'il n'avait pas d'imagination et qu'il devait se nourrir de l'imagination des autres. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est l'une des clés pour comprendre l'éternelle insatisfaction et recherche de Clouzot et son imprégnation de tout ce qui pouvait nourrir, presque comme une sorte de vampire, toutes les autres créations qui pouvaient nourrir sa propre création.
Alors Philippe Dupuis, vous, dans l'exposition à la topographie de l'art, vous êtes concentré sur les mystères Picasso et sur ce dialogue entre peinture et cinéma. Et quand je parle de dialogue, c'est qu'on voit beaucoup de dessins, mais il y a des moments où Picasso et Clouzot se parlent et mettent en scène, se mettent presque en scène eux-mêmes.
Oui, il se met en scène. D'ailleurs, par moments, il joue assez mal. C'en est très charmant, je trouve. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement ces scènes-là de dialogue que j'avais en mémoire. Donc, je suis allé les pister, les rechercher, je les ai extraites. Parce que du coup, à travers ce film qui est censé être sur la peinture, c'est là où j'ai vraiment trouvé une leçon de cinéma. Parce qu'évidemment, il met en scène ce suspense. À l'époque, c'est pas du numérique, c'est de la pellicule. Donc Clouzot joue énormément avec ça, en mettant la pression sur Picasso, en lui disant « il n'y a plus que 150 mètres, ça veut dire une minute et demie ». L'autre, il dit « ça va aller », parce que Picasso, c'est quand même, il sait qu'il est Picasso, il est déjà âgé. Donc attention, on me la fait pas. Donc c'est un film que je trouve en fait assez drôle. Et puis après, il y a ces moments effectivement sur le doute où on voit. Alors là, en tant que dessinateur, c'est quelque chose qu'on connaît bien. J'arrive à sentir comment Picasso, à un moment, et même je le vois dessiner, et il y a des étapes où je me dis là, c'est pas bon. C'est présomptueux de dire ça de Picasso. Mais il y a des moments où il est pas super bon. Et puis, là où il devient excellent, c'est qu'on voit comment il lâche pas l'affaire, il reprend, il retourne les choses à son avantage. Et à un moment, il dit ça va mal, ça va très très mal. Et c'est des choses en tant que créateur qu'on connaît. Et je pense que Clouzot connaît ça. Et c'est ça qu'il voulait aussi attraper dans ce film. Et c'est pour ça qu'il met Picasso dans des situations, si possible, inconfortables.
Tiens, étends-toi sur le lit, veux-tu ? Attends. Prépare-toi.
Non, j'en suis pas, alors non.
Ah non. Qui êtes-vous ?
Je suis la terreur de ma fignole. Voilà.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, vous ?
Je suis un honnête cambrioleur, madame. Je suis marié. J'aurais pu avoir des enfants.
Non, quand je vous en prie, essayez-vous.
Merci. Si ça ne vous fait rien, je vais aller fermer le gaz, n'est-ce pas ?
Vous avez peur ?
Moi, peur ?
Le Clouzot angoissé, le Clouzot insomniaque, le Clouzot qui a envie de se jeter par la fenêtre et qui n'est retenu que par la présence de sa femme, on la voit, Noël Herpe, dans certaines des pages de ses carnets que vous exposez dans des vitrines. Alors on va un peu progresser dans cette exposition et revenir en arrière, diriger les images. Alors là, on a les premiers films de Clouzot, L'assassin habite au 21, Le Corbeau, et donc cet extrait où Pierre Larquet, dans Le Corbeau, explique à Pierre Freinet l'ambiguïté entre le bien et le mal, avec cette lumière qui est balancée, où on passe sans arrêt de l'ombre à la lumière. Alors si on reprend maintenant depuis le début l'œuvre de Clouzot, elle ira quand même de plus en plus vers le côté obscur, alors qu'elle avait commencé dans ses premiers scénarios. Et alors, vous les avez vus, Anne Tebbins, dans ce coffret que sort Lobster Film, Clouzot avant Clouzot, Clouzot scénariste. On est dans quelque chose qui est quand même un peu plus léger que les œuvres les plus sombres de la fin.
Mais ce qui est intéressant, c'est que de savoir que Clouzot a commencé par écrire des chansons, parfois des chansons légères, mais à fond parfois aussi féroces. Et ce qui le fascinait...
Jeux de massacre, Vierge Éponine et d'autres.
Mais parfois aussi des chansons qui ressemblaient beaucoup au musical ou à l'opérette.
Il a écrit une opérette, oui. D'ailleurs.
Il a écrit des paroles françaises, d'opérettes allemandes, et c'est ce qu'on voit dans ce Clouzot avant Clouzot. Mais ce qui l'intéressait aussi dans le spectacle musical, c'était la notion de spectacle, c'est-à-dire le spectateur voyeur et le performeur ou l'interprète exhibitionniste. Ça, c'est quelque chose qui va poursuivre Clouzot jusqu'à la fin et qui, au départ, peut prendre les allures d'un divertissement charmant, parfois un peu aigriard. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ses premiers films, dont il écrit parfois que les dialogues français.
Il faut préciser que Clouzot, dans les années 30, avant d'être atteint d'une maladie pulmonaire qui va l'envoyer dans un sanatorium, il est à Berlin, il travaille pour la UFA. C'est là d'ailleurs qu'il rencontre Alfred Greven, le futur patron de la Continental. Et son métier, c'est de faire les adaptations françaises de films allemands, selon le principe de l'époque. Hein, plutôt que de faire du doublage en post-production, on va simplement remplacer les comédiens allemands par des comédiens français sur le plateau même, avec la mise en scène du réalisateur d'origine.
Oui, mais alors, il y a la UFA d'une part, et puis d'autre part les productions Osso, qui est un producteur indépendant, qui fait aussi parfois des versions multiples, puisque c'est l'usage à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que quand même, Clouzot, il ne s'est pas contenté parfois des dialogues, parfois il a aidé à la direction d'acteurs, mais parfois aussi, c'est lui qui a établi le découpage des séquences. Et il y a un match de boxe dans Soir de rafle de Carmine Gallone, où il y a plusieurs numéros musicaux dans d'autres films de cette époque, dialogués par Clouzot, où on a des sortes de répétitions générales de l'attitude du public par rapport au spectacle et du public qui se repaît des imperfections ou de la violence d'un spectacle qui se retrouveront dans la première séquence très célèbre de Quai des Orfèvres.
Oui, tu as raison d'insister sur cette dimension-là. Bah, je crois que Clouzot est d'abord un homme de théâtre, un homme du boulevard. Hein, il travaille avec René Dorin, par exemple, qui est un parolier célèbre des années 30, avec Maurice Yvain, qui est un grand compositeur d'opérette, qui va l'accompagner dans tous ses premiers films. Et il a le goût de la réplique qui percute. Hein, il a la réplique coup de poing, presque, qui va se manifester d'une manière en même temps très américaine, dans L'Assassin Beethoven 21, ou dans Le Dernier des Six, dans ses premiers films pour la Continental. Bon, en même temps, je dirais qu'il y a à la fois le théâtre et la réflexion sur le théâtre, qui nous amène au côté réflexif de la fin, puisqu'il va mettre en abîme le théâtre, il va le mettre en scène d'une manière ironique dans Quai des Orfèvres, où il y a évidemment cette scène éblouissante du début avec l'évocation d'un musical de quartier, les artistes un peu minables, les entr'actes, les gens qui regardent ça avec les bébés, avec leurs bébés dans les bras, etc. La femme qui regarde son mari parce qu'il est en train de trop reluquer les jambes de la chanteuse, etc. Donc tout ce côté, cette manière de s'intéresser au public en même temps qu'à la représentation et de donner à voir le théâtre, le spectacle comme une globalité, comme une totalité sociale. Mais on va retrouver ça aussi dans un film que je trouve absolument merveilleux, qui est moins connu, qui est Mickey et sa mère.
Alors ça, c'est une séquence formidable à la fin. Mickey et sa mère, dont vous publiez à nouveau le texte d'origine. Et Mickey et sa mère, vraiment film à redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, où toute la fin, c'est un passage sans arrêt de la scène aux coulisses, avec deux actions simultanées qui se passent, et un suspense des deux côtés. Les comédiens vont-ils arriver à temps
Une sorte de mise en miroir du théâtre par le cinéma, justement, que peut le théâtre par rapport au cinéma. Il y avait par exemple un moment extraordinaire où Saturnin Fabre est en train d'engueuler son copain pendant qu'il y a les mousquetaires qui se tirent des coups d'arquebuse derrière. Et ce jeu de dépliement du théâtre par le cinéma est absolument génial. Rejoint ce que faisaient à l'époque des gens comme Hitchcock ou Cocteau. Hein, c'est un phénomène de fin des années 40. Mais en tout cas, il y a ça. Et puis il y a aussi l'humour. Hein. On ne parle pas assez de l'humour de Clouzot. Il est présent dans ses premiers films Continental, et Dieu sait. Et on le retrouve dans des films comme Quai des Orfèvres, comme Mickey, mais aussi même dans Les Diaboliques, avec cette scène très drôle de la radio, d'une espèce de Zapimax qui nous dit on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, etc. Bon, il y a souvent des petites pastilles d'humour.
C'est Noël Roquevert qui écoute ça en se plaignant des bruits de baignoire que fait la voisine du dessous pendant qu'elle est en train de noyer le mari.
Et même Les Espions, il le concevait comme un film comique. Il s'est peut-être un peu trompé.
Écoutez, tant pis. Moi, je vous fais confiance. Je vais vous dire qui est Alex. C'est probablement, très probablement, Hugo Fogel.
Non !
Qui ? J'ai pas entendu.
Fogel, Hugo Fogel.
Mais qui c'est ce Fogel ?
Vous avez entendu parler du pape, non ?
Oh, c'est pas lui quand même.
Oh, non, mais en Allemagne, lui et la bombe atomique, c'est comme le pape et le bon Dieu. Quand il dit ça ne pètera pas, ça ne pète pas. Quand il dit ça pètera, ça pète.
On est ici, là, dans vraiment l'archétype du Clouzot qui contrôle absolument. On parlait de ce scénario où il écrivait le découpage, alors quand c'est lui qui est cinéaste, et c'est sans doute un de ses points communs avec Hitchcock, tout est storyboardé, tout est écrit. On est d'un côté avec un storyboard dessiné par Max Douy, le grand décorateur pour Quai des Orfèvres, et puis en face, c'est celui extrêmement précis de la séquence dite du mouchoir dans le salaire de la peur, signé René Renoux. Alors, selon un vieux cliché qui voudrait que les storyboards soient des formes de bandes dessinées, je vais évidemment demander à Philippe Dupuis comment est-ce qu'il regarde ces storyboards.
Il est très très beau ce storyboard sur le salaire de la peur, parce que graphiquement il y a des espaces magnifiques, des décors avec un arbre au fond, des perspectives comme ça.
Moi je vois, moi le je vois de la Camargue, hein, où on mettait des cactus en ciment et des palmiers en inox.
Mais moi je vois ça comme un storyboard, mais aussi comme une pièce d'art en fait. C'est, je trouve que l'objet se suffit à lui-même. C'est pas le film, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un storyboard, mais c'est quand même plus que ça, celui-là.
Alors, il y a évidemment un exercice à faire, je ne sais pas si vous y êtes livré, Noël Herb, c'est de comparer le storyboard au film. C'est de voir la part d'invention et de liberté qui se passe sur le tournage, ou est-ce que le film n'est que la recopie d'un storyboard, comme disait Hitchcock, une fois que le storyboard est fait, le film est fait, il n'y a plus qu'à le tourner.
Oui, c'est ce que pouvaient dire d'ailleurs pas mal de cinéastes français de cette époque. On pourrait dire la même chose de Carnet, de René Clair, de pas mal de cinéastes de cette génération qui étaient d'abord des grands découpeurs, mais qui ne faisaient pas de storyboard comme Clouzot, qui à ma connaissance est le seul cinéaste français de cette période à avoir eu cette pratique qui était plutôt américaine. Je pense que, si on regarde par exemple ce storyboard devant lequel nous sommes actuellement, des espions, j'ai l'impression, j'ai pas été regardé parce que j'ai peut-être pas assez obsessionnel pour ça, mais d'autres s'en chargeront peut-être, que la scène du film est exactement celle qu'on voit là, c'est-à-dire avec la bouche d'égout à travers laquelle, qui n'est pas tout à fait une bouche d'égout d'ailleurs, mais à travers laquelle
c'est une bouche de chauffage, une bouche de chauffage
à travers laquelle on entend des voix. Déjà le film est déjà là, quoi. C'est ça qui est très frappant quand même. C'est pour ça que ça nuance en même temps ce que disait Clouzot sur le fait que j'ai pas d'imagination. Il avait pas d'imagination scénaristique. Il travaillait d'ailleurs très souvent avec son propre frère, qui l'obligeait à travailler sous pseudonyme, ou avec Jean Ferry, qui était un très bon scénariste aussi, dialoguiste. Mais il avait pas d'imagination, mais il avait des images. Et il rêvait à des images. Il pensait souvent à ses films couchés. Il avait des images comme ça qui le hantait, des images mentales qu'il avait envie de voir à l'écran. J'ai l'impression que tous ces films s'organisent comme ça autour d'une image mentale, d'un noyau, d'une cristallisation à travers laquelle le film se développe ensuite. Mais ce qu'il veut, c'est voir ces images se matérialiser à l'écran. Par exemple, dans Manon, ça commence avec la petite femme toute menue qui est dans un train et qui court pour retrouver l'homme qu'elle aime à travers plein de gens qui entravent son parcours. Donc c'est toujours des images contraintes, des images saturées, des images étouffées, un inconscient qui n'arrive peut-être pas à s'exprimer librement, une recherche d'un arrière-monde auquel il n'a peut-être pas tout à fait accès. Alors voilà, c'est pour ça qu'il a besoin du storyboard pour donner forme à cette image mentale. Et il disait lui-même en même temps que ça lui permettait d'être complètement libre sur le tournage. Je pense que la période de préparation pour lui devait être un enfer, car il devait tout prévoir à la virgule près. Et à partir du moment où il était sur le tournage, il n'avait plus, et c'est ce qu'il voulait, s'occuper des acteurs.
Alors les acteurs, on va y venir plus tard, mais puisqu'on est ici dans le storyboard, mais aussi les décors et les rapports de Clouzot avec ses décorateurs, parmi ses obsessions qu'on retrouve dès L'assassin habite au 21 et qu'on retrouvera régulièrement et même dans des films moins connus comme Le Retour de Jean, son sketch de Retour à la vie, c'est l'intérieur un peu crasseux, le papier peint qui se décolle, la vieille bâtisse. On est très loin du décor immaculé et parfaitement patiné que pouvaient demander certains réalisateurs de l'époque, N.T. Bean. On est dans un monde en décadence perpétuelle.
Mais surtout, ça dit beaucoup de choses sur le rapport de Clouzot au réel ou à la réalité ou au réalisme. C'est-à-dire que Clouzot, c'est à la fois un hyper-réaliste et presque un surréaliste. C'est-à-dire qu'il part de choses qui doivent absolument coller, être crédibles sur le plan du réalisme, et puis il le stylise d'une manière très singulière. Et je pense qu'il fait la même chose avec ses récits. C'est-à-dire qu'il part parfois de faits divers, et puis il va y mettre ses obsessions, son goût du torturé, ses recherches formelles. Et la même chose pour les acteurs, d'ailleurs, on va sans doute y revenir, mais à la fois il leur fait jouer le plus juste possible, et en même temps il y a une sorte d'exacerbation, d'exaspération. On a parlé tout à l'heure de ces pièces de théâtre, il paraît qu'il aurait écrit une pièce pour Le Grand Guignol. Ça m'intéresserait de voir un peu ce qu'il a écrit pour ça.
Mais c'est intéressant cette histoire de réalisme ou de surréalisme, parce qu'au début dans la discussion on parlait de Clouzot comme un réalisateur classique. Ces films que moi je qualifiais, les ayant vus petits, je les voyais à la télévision, c'était des films un peu du dimanche soir, donc il y avait voilà le film policier dans sa forme classique, mais en fait d'abord en grandissant, quand on les revoit, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est pas du tout pour moi en fait un classique. Et le rapport au surréalisme, c'est pareil, c'est exactement la même chose pour moi qu'un Salvador Dali. Dali, il peint avec une technique classique très réaliste, mais enfin les images qu'il produit, les tableaux qu'il produit sont quand même très très étranges et dérangeants. Et chez Clouzot, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il va prendre un décor qui est classique, effectivement des objets, puis après il va distordre tout ça pour en faire des objets cinématographiques beaucoup plus complexes et beaucoup plus picturaux.
Et pour le coup, pictural, nous voici devant un de ces panneaux de photogrammes dont vous parliez, Noël Herpe, tout à l'heure, qui explore des motifs et des obsessions, là encore. Alors on a des poignées de porte, on a des escaliers, des miroirs, des images à l'envers, des divers motifs qui suggèrent là encore l'emprisonnement, c'est l'abstraction. Presque chez Clouzot.
Moi, ça m'a frappé parce que j'ai re-regardé tous ces films. J'avais dû faire un premier choix d'à peu près 200 images. Je suis arrivé à cette vingtaine d'images. Et ce qui m'a frappé, c'est le thème obsédant du passage, du seuil, de la frontière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnages de Clouzot sont enfermés dans le monde. C'est un peu la misère de l'homme sans Dieu aussi, le monde de Clouzot. C'est un monde qui est quand même hanté par une sorte de métaphysique négative. Il va finir par se convertir à la fin de sa vie, mais enfin bon, on n'y croit pas beaucoup. C'est un monde damné, hein. C'est un monde de personnages écrasés dans la matière, enfermés dans la matière, et qui aspirent à une espèce d'au-delà du visible, auxquels ils n'ont jamais tout à fait accès, qui restent fort clos, qui restent hors du champ. Et il me semble voilà, que ces images montrent ça. Elles montrent des poignées de portes qui débouchent sur on ne sait pas quoi, des portes, des passages qui débouchent sur le vide, des escaliers grillagés qui masquent une réalité qui reste opaque, des fenêtres à travers lesquelles l'image reste floue, des cadres dans le cadre, des miroirs brouillés, etc. Hein. Je crois que c'est ça, Clouzot. C'est une espèce de quelqu'un qui désespère d'avoir accès à son propre irrationnel.
Alors, il y a un motif que vous auriez pu rajouter dans ce panneau, peut-être que vous allez le rajouter après cette discussion et que vous avez repéré, vous, Philippe Dupuis, dans plusieurs œuvres de Clouzot, c'est le regard sidéré, le regard dans le noir, le regard de Charles Vanel recouvert de pétrole, le regard de Picasso, le regard qui vous tue quand vous voyez une scène horrifique dans les Diaboliques. Il y a régulièrement ces gros plans sur des yeux.
Oui, c'est obsédant, et ça devient obsédant, je trouve, pour le spectateur, parce que j'ai vu qu'en me promenant dans l'exposition, j'en vois de plus en plus des regards que j'avais pas identifiés, des regards en plus coupés par un miroir brisé. Je vois que même sur les affiches, il y a la première affiche là-bas du corbeau, même l'affichiste a capté ça, ils sont tous en train de regarder. Et puis le regard, il est mental. Hein. C'est on regarde les autres, on dénonce pas.
C'est donc, le corbeau déjà, oui.
Voilà. Et évidemment, en travaillant après sur le mystère Picasso, il y a ce regard de Picasso, il est bien tombé, puisque Picasso est quand même un peintre qui a un regard physiquement qui est absolument électrique. Mais il y a effectivement, moi j'ai ces visions-là de la scène de la baignoire avec le regard comme
dans
ça,
ouais.
Dans les Diaboliques, ou le salaire de la peur, avec cette chose très très forte où il joue vraiment sur le noir et blanc, où le fait que le visage soit enduit de pétrole, d'un seul coup les yeux deviennent totalement blancs. Je ne me souviens plus si on voit les dents, peut-être, c'est possible.
Mais il y a une autre influence dont on n'a pas encore parlé, mais qui, je crois, a été essentielle pour Clouzot. Son passage dans les studios allemands au début des années 30, c'est l'expressionnisme. Mais un expressionnisme, c'est devenu un mot un petit peu fourre-tout. Mais ce qui est très frappant chez Clouzot, c'est que la totalité de ce qui est dans le film, que ce soit le son, le cadre, les lumières, sont des reflets du mental torturé de ses protagonistes. Et dans le mystère Picasso, d'ailleurs, les images qu'on retient, c'est Picasso qui est en train de dessiner, comme s'il était sur un écran entre le spectateur et le peintre, une toile qui va l'enfermer. C'est-à-dire il dessine une toile autour de lui, et finalement, tout le cadre va être l'univers Picasso. Et ça, c'est presque une sorte d'obsession chez Clouzot. Quand il montre un personnage torturé, eh bien, l'environnement se met au miroir de cet univers mental.
Je regrette. Ma sœur ne dit pas la vérité.
Pourquoi j'aurais inventé ça?
Pour me faire mal, parce que tu étais jalouse.
Jalouse? De qui? De quoi? Oh non, mais tu t'es pas regardée. Il y avait lui et moi, c'est tout. Toi, tu n'as jamais compté.
Mais c'est moi qui l'épousais.
Pour repriser ses chaussettes.
Mais taisez-vous! C'est indécent. À la prochaine interruption, je vous fais expulser.
L'amour, c'était nous. On a été heureux comme elle ne le sera jamais. C'est pour ça qu'elle l'a tuée. Pour que je ne sois jamais heureuse. Elle a eu tous les hommes qu'elle a voulu. Tous. Moi, je n'avais que celui-là. Tu l'as jamais eu. Jamais. Il n'a même pas fait l'amour une fois avec toi.
Garde, faites sortir l'accusé.
Fais avec moi 100 fois, tu entends 1000 fois.
Mais tais-toi. Tu me l'as tué.
Non, je voulais pas, je voulais pas, je voulais me tuer, moi. Moi, pas lui, moi, je voulais me tuer, moi.
Vous avez abordé déjà le travail sur l'acteur chez Clouseau, et on est devant un écran très étonnant. C'est une scène d'essai cinématographique. Oui. En fait, tourner un bout d'essai à une actrice. Et puis, il faudrait nous dire ce qui se passe là, Noël Herpe.
Bah, c'est très mystérieux. Donc ça, c'est un essai que nous avons retrouvé aux archives du film pour un film qui devait s'appeler La Chatte, scénario de Jean Hanouille, l'histoire d'une femme qui se transforme en chatte. C'est un peu l'équivalent à la même époque de La Féline de Jacques Tourneur. Et il auditionne une jeune comédienne qui s'appelait Jeannine Guyon, qui devait être plus tard l'épouse de Georges Guettari, et qui se prend une énorme baffe en plein milieu de l'audition. Alors, on voit bien Clouseau, on voit bien qu'il est très tendu. Je pense qu'elle s'y attend, que c'est dans la scène, en fait. C'est assez terrifiant. J'ai tendance à penser qu'il fait ça parce qu'il sait qu'il est filmé et qu'il veut imprimer cette image de moi, Henri-Georges Clouseau, je peux tout me permettre. Je pense qu'il sait déjà se servir de ce qu'on n'appelait pas encore les médias. Et voilà, donner à voir cette image à la Stroheim, hein, c'est l'homme que vous aimerez haïr. Il aime montrer que c'est lui qui décide, pour le meilleur et pour le pire. Il y a en même temps quelque chose d'un peu masochiste dans cette stratégie, parce que, ce faisant, évidemment, il se fait détester. Il va finir par être un peu pris au piège de cette image. Mais je crois que c'est une manière de faire parler de lui, d'alimenter, là encore pour employer un terme anachronique, le buzz. Et on voit bien que tous les articles, à partir de cette époque, parlent de ce côté sadique de Clouseau, qui, d'une certaine manière, à l'époque, est lié à des mèmes de mise en scène. Hein.
C'est ça qui est très passionnant et qu'on voit dans cette exposition, c'est que le Clouseau misanthrope, le Clouseau sadique, le Clouseau démiurge, c'est une création de Clouseau, là
oui.
encore.
C'est-à-dire oui.
que lui-même...
C'est un rôle.
Mais on a ici un témoignage de Bernard Blier, disant, oui, effectivement, j'ai reçu une gifle sur le tournage de Quai des Orfèvres, mais c'était plutôt rigolo, et finalement, ça nous met dans l'état que recherche Clouseau Entebbe.
Ça nous revient à la question du réalisme. Je pense que Clouseau, il aurait rêvé de faire un documentaire. Là, il y a ce projet inachevé qui s'appelle Brésil, où il se met en scène lui-même avec sa femme Vera Clouseau. Mais il n'est pas fait pour ça.
On va y aller, justement, devant ces images de Brésil.
Il est fait pour prendre dans la réalité ce qui va servir son projet formel. Mais il faut que cette réalité ait une motivation profonde. Je veux dire, c'est presque un cliché de le dire, mais c'est les fameuses scènes où il martyrisait Brigitte Bardot, etc., gifle, et puis Brigitte Bardot nouvelle gifle, et puis lui marche sur le talon, etc. Brigitte Bardot elle-même, après, dira que son meilleur souvenir de tournage, c'était celui de la vérité, et que c'est de loin son plus grand rôle d'actrice de composition, parce que on est allé chercher en elle quelque chose qui pouvait résonner avec le personnage. Et alors, évidemment, la presse de l'époque amalgame tout ça. Brigitte Bardot fait une tentative de suicide quelques semaines après le tournage, comme elle l'avait fait dans le rôle principal de La Vérité, etc. Donc, à la fois, c'est alimenté par Clouseau, ça fait évidemment la joie des médias, ça fait vendre du papier, et en même temps, c'est aussi le reflet d'une sorte de torture mentale intérieure du créateur.
Et je crois que c'est quelqu'un qui a du mal à fixer les limites entre la fiction et la réalité, et qui à un certain moment est dans le psychodrame, en fait. Il sait plus trop. Et quand il fait les diaboliques et qu'il demande à sa femme Vera, qui est cardiaque, de refilmer 60 fois une prise où elle est censée avoir un infarctus, bon, évidemment, c'est terrible. Même dans Brésil, d'ailleurs, il va filmer une opération à cœur ouvert que subit sa femme. Donc, il ose tout, parce qu'on a l'impression qu'à un moment, il voudrait en effet que son cinéma déborde les limites de la fiction pour aller vers quelque chose qui serait plutôt du côté de l'introspection documentaire, d'une sorte de mise en scène de soi, exhibitionniste, il sait pas trop en fait. Je parlerai peut-être moins de sadisme en fait que d'exhibitionnisme.
Notaire.
Retour.
Annoncé.
Brésil numéro 1, première fois.
Et voilà. Le signal est donné, le film est commencé. Mais comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas ici dans un décor, au studio. Nous sommes ici chez moi. Au cinquième étage d'une vieille maison de la rue Lagrange.
Alors on termine effectivement par ce Brésil, film complètement méconnu de Clouseau, et pour cause, puisqu'il n'a jamais été tourné réellement, subsistent ces 10 minutes que nous voyons dans l'exposition, où là, Clouseau se met en scène, mais avec sa femme Vera. Alors, on est loin de l'intensité qu'il obtient des autres comédiens, parce qu'ils ne sont pas très très bons dans la façon de se mettre en scène eux-mêmes, et il y a quelque chose pourtant de très touchant là-dedans. Philippe Dupuis, nous avons découvert ce film ensemble.
Oui, moi j'étais surpris de voir ça. C'est une démarche en fait autobiographique. On sent aussi qu'il tâtonne, qu'il cherche en faisant. C'est-à-dire que c'est comme un projet de film. Il raconte qu'il va essayer de trouver de l'argent, comment il va monter ça, les accords avec l'ambassade au Brésil ou le consulat, je sais pas trop. Et il filme tout ça. Il demande à ses collaborateurs de jouer. Donc on est à la fois entre
ça permet de voir à l'écran des personnes qu'on voyait dans ces génériques, notamment Armand Tirard, son grand chef opérateur.
Oui,
Et William Sewell, son preneur de son.
Qui ne s'aime pas l'image en plus, donc c'est assez intéressant tout ça. Moi, c'est encore une forme nouvelle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je savais pas du tout qu'il avait fait ça. Et je me dis, on a des visions, effectivement, je pense que le grand public a une vision un peu monolithique comme ça de Clouseau, alors qu'en fait c'est un réalisateur, quand on réfléchit entre le polar, le film de divertissement, le documentaire avec le mystère Picasso, les films expérimentaux, d'un point de vue plastique, et puis ce Brésil qui est une leçon de, je trouve pour moi, de cinéma improvisé en direct, comme ça, de journal autobiographique. Il y a un peu de l'autofiction aussi, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autofiction en littérature. Donc c'est très touchant. J'aurais bien aimé voir la suite, malheureusement.
Que c'est un moment où il avait un projet, donc de ce projet de documentaire, et puis il s'est aperçu qu'en fait il avait pas assez d'argent, parce qu'il avait sous-estimé les distances en Amérique du Sud, qui faisaient que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait cru.
Mais d'un coup, il réalise en regardant la carte que le Brésil, c'est grand comme l'Europe.
C'est ça, il avait pas perçu ça au départ, et c'est vrai qu'il y a chez lui à l'époque, il parle beaucoup de Flaherty, je pense qu'il a vu aussi les films de Rossellini, tout ça. Donc il y a aussi ce côté de vouloir être dans le coup. Il faut quand même pas sous-estimer la part d'opportunisme qu'il y a chez Clouseau. Son désir de s'adapter à l'ère du temps et de jamais être dépassé. Mais en même temps, ça fait partie de sa jeunesse. Je trouve que c'est quelqu'un qui reste jeune jusqu'au bout et qui veut se renouveler en permanence. Bon, effectivement, cette tentation documentaire, on ne peut pas dire qu'elle soit tout à fait accomplie chez lui. Il en restera quand même quelque chose dans Le Salaire de la peur, avec toute une première partie qui est, comme disent certains journalistes, quasi-documentaire. En tout cas, il y a une heure comme ça, avec un texte non sous-titré, des personnages qui sont comme ça perdus au milieu de nulle part. Tout ça est reconstitué, évidemment, dans le sud de la France. Mais enfin, c'est quand même une tentative d'insérer le documentaire dans la fiction et de jouer là aussi avec la limite du genre.
Très bien, eh bien, on se quitte sur ces essais non aboutis et quand même sur cette robe magnifique que vous pouvez nous décrire,
la
peut-être,
Noël
Herpe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moment grand, vraiment moment purement fétichiste?
Oui, soyons fétichistes. Clouseau l'était un peu, donc je pense que ses mannes ne nous en voudront pas. C'est un don, c'est un achat de la Cinémathèque française, mais qui a été rendu possible par la générosité de Suzy Delair, qui portait cette robe en 1947 dans Quai des Orfèvres. C'est une robe signée Jacques Fatt, et la robe, c'est une sorte de bustier avec une robe fourreau qu'elle porte sur la scène du music hall. Donc c'est pas tout à fait la même séquence du film, et on découvre que cette robe en tulle à pois est foncée. C'est une sorte de violet ou de rouge foncé qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voit dans le film. Et c'est intéressant de voir quand même que dans ce cinéma en noir et blanc, les robes étaient très colorées et pas du tout comme on s'y attendrait.
Et on notera que sur cette robe, il y a un très joli tralala, n'est-ce pas?
Absolument.
Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala était si tralala que nulle part il y en avait un comme ça.
Hé, la clarinette là, 8 dièses, mon ami, 8 dièses.
C'est pas écrit.
Donnez. Regardez, Léo, une faute de copie.
Ça m'aurait étonné.
Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas?
Mais dépêche-toi, génie, les animaux attendent.
Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de t'en servir.
Les l'exposition Le Mystère Clouseau se poursuit jusqu'au 29 juillet dans la galerie des donateurs de la Cinémathèque française, accompagnée d'une rétrospective qui s'achève, elle, le 22 novembre et d'un très beau et passionnant catalogue pour découvrir la lecture par Philippe Dupuis du Mystère Picasso, l'exposition Clouseau et les arts plastiques avec 12 autres artistes dont Ange Lecha et Claude Lévesque. C'est à partir de vendredi prochain et jusqu'au 12 janvier à la galerie Topographie de l'art rue de Torigny à Paris. Et puis pour avoir toutes les informations sur les nombreux DVD, livres, autres expositions encore, on vous renvoie à la page Plan Large sur le site franceculture.fr. Ntebine, vous êtes revenu avec nous à la Maison de la Radio et même si vous aimez beaucoup Clouseau, vous conviendrez que Lubitsch, ce n'est pas mal non plus.
Attention, please, attention, we just came back from the coast. We brought a big director who was California's toast. He came from Germany and Mr. Zucker brought him fame. He went to Hollywood and revolutionized the game. He's the king of all directors, would you like to meet him now?
Mr. Lubitsch!
Mr. Lubitsch!
Mr. Lubitsch, take a bow!
I'm gonna make a picture that will be a big surprise.
We are his press agents and we're here to advertise.
Boy, sharpen up your pencil, start to ballyhoo today.
To describe a Lubitsch picture, this is what we have to say. It's colossal, tremendous, gigantic, stupendous, the super special picture of the year.
Lubitsch, c'est le roi des réalisateurs. Chaque film de Lubitsch est un classique de l'écran, chanté en 1934 les Yacht Club Boys. Qu'aurait fait Lubitsch, se demandait inlassablement Billy Wilder. Il avait même fait écrire la sentence au-dessus de son bureau à Hollywood. Il faudrait aussi se demander qu'a fait Lubitsch, qu'a-t-il fait avant ses classiques et chefs-d'œuvre que sont Haute Pègre, Sérénade à Troyes, La Huitième Femme de Barbe Bleue, Ninotchka, To Be or Not To Be, Le Ciel peut attendre ou encore La Folle Ingénue. Qu'a-t-il fait avant de s'installer à Hollywood en 1923? Eh bien, le grand maître de la comédie sophistiquée avait déjà tourné 40 films, oui, 40 films à Berlin dans tous les genres, où prédominaient en général la satire et la comédie de mœurs. 40 films dont les deux tiers sont perdus. Il en reste 15 que la fondation Jérôme Sédou-Pathé nous invite à découvrir depuis mercredi et jusqu'au 25 novembre en ciné-concert. C'est L'étonnant Monsieur Lubitsch, la période allemande, l'occasion rare, Ntebine, de voir sous nos yeux les premiers pas d'un génie et naître la fameuse Lubitsch Touch.
Oui, alors en plus de découvrir les premières armes du Lubitsch réalisateur, ce qu'on découvre vraiment avec émerveillement, c'est que avant d'être metteur en scène, Lubitsch a été acteur. Et en fait, son idole, c'était Chaplin. Il avait voulu faire carrière au théâtre, mais son physique, petit, replet, le vouait à des seconds rôles ou à des rôles de composition. Donc, il va trouver dans le cinéma, grâce à Max Reinhardt, le grand metteur en scène de théâtre, qui s'intéresse aussi à la forme du cinéma, il va trouver l'occasion de s'exprimer pleinement. Il va d'abord composer une sorte de petit personnage mi-chaplinesque, mi-issu de la farce allemande, avec une touche d'humour juif.
Ouais, c'est le commis de magasin Meyer.
Absolument, Meyer ou Pinkus ou Sally. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte qu'il peut encore mieux briller derrière la caméra. Alors, d'abord, il commence par se mettre en scène lui-même, comme Chaplin. Et puis, ensuite, il s'aperçoit que il a un œil. Et là, il est engagé par un producteur pionnier de ce qui va devenir la UFA. Et Lubitsch va très, très vite, hein, très vite, en 2-3 ans, devenir le réalisateur phare de la UFA. Il va abandonner ses rôles devant la caméra. Il va continuer à parler, à s'exprimer, à faire des coups de coude et des clins d'œil aux spectateurs par le biais de la mise en scène. C'est ce qui va devenir la Lubitsch Touch, qui aujourd'hui est, surtout à travers ses comédies sophistiquées des années 30, connue pour son sens de la litote, de la suggestion,
etc. De l'ellipse.
Oui, de l'ellipse. Mais là, c'est pas encore ça exactement. Ce que c'est que le cinéma est encore muet. Mais Lubitsch va très vite comprendre que l'important, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans le champ, c'est aussi ce qu'il y a hors champ. C'est pas uniquement ce qu'il y a dans le plan, mais c'est ce qu'il y a aussi entre deux plans, c'est-à-dire entre deux coupes, enfin la coupe entre deux plans. Et c'est ça qui va petit à petit lui faire comprendre qu'on peut s'adresser au spectateur, pas uniquement en lui montrant des choses. Et par exemple, les personnages ne pouvant pas parler, eh bien, ce sont les attitudes, ce sont les accessoires, les décors, les costumes, les réactions des autres personnages qui vont parler pour lui. Et c'est ça qui va finalement donner ce qu'on appellera la Lubitsch touch, c'est-à-dire ne pas directement montrer la chose, mais la montrer indirectement en sollicitant tout le temps la connivence du spectateur.
Alors, que filme à cette époque Lubitsch, pendant qu'il invente justement cette Lubitsch touch? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des films un peu dans tous les genres, il y a des films historiques, il y a des comédies, il y a des fables orientalistes.
Absolument, et c'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire qu'il commence par des comédies, qui est le genre le plus populaire, comme aujourd'hui d'ailleurs, et puis il va devenir un metteur en scène sérieux, entre guillemets, avec Les yeux de la momie. Ça va être un grand découvreur d'acteurs et de stars. Il découvre Emilianings, qui est encore tout mince à l'époque, vers 1916-1917. Il découvre Paula Negri.
Des comédiens qui le suivront à Hollywood. Après.
Absolument. Et puis aussi des stars du moment, aussi Oswalda, Annie Porton. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'une part les comédies populaires, et puis d'autre part, il va se faire un nom, ça va être en quelque sorte le Cecil B. 2000 allemand des années 10 et 20, dans les super-productions, c'est-à-dire des drames, mais où le décor, où les mouvements de foule, où les costumes sont d'une munificence absolument incroyable, inégalée. Et d'ailleurs, ça va très vite attirer l'attention d'Hollywood, avec une sorte de joint venture, où Hollywood va s'associer avec la production allemande de Lubitsch pour coproduire déjà les films de Lubitsch. Donc déjà, il lorgne vers le cinéma américain et vers les moyens du cinéma hollywoodien, ce qui ne va pas tarder à arriver d'ailleurs.
Voilà, alors il y a des grands films historiques comme Madame du Barry, il y a des satires à la Stroheim, comme La princesse aux huîtres, et puis il y a un film très étonnant qui est une sorte d'expressionnisme comique, c'est La poupée.
Oui, il y a La poupée où, en plus, on voit dans un prologue Lubitsch lui-même à l'écran, alors qu'il ne joue pas un personnage du film, il est le metteur en scène qui plante le décor et qui met en place des petites marionnettes qui seront les personnages et qui ensuite s'animent. Et puis alors, il y a un chef-d'œuvre qui a été l'un des bides à l'époque de Lubitsch, parce que c'est une comédie historique d'avant-garde, qui est La chatte des montagnes, où Lubitsch, qui n'est pas satisfait du cadre carré du champ de la caméra, va s'amuser à inventer des tas de sortes de caches de formes différentes et de tailles différentes pour mettre l'accent sur un tout petit détail de l'image, du champ de la caméra, et dont l'une des utilisations les plus célèbres ensuite qui sera reprise sera le trou de la serrure. C'est-à-dire, on regarde à travers le trou de la serrure. Vous vous souvenez ce que dira Mary Pickford, la grande star qui fera venir Lubitsch à Hollywood. Elle dira « Mais monsieur Lubitsch ne s'intéresse pas aux acteurs, il ne s'intéresse qu'aux portes ».
Et puis il y a même, et c'est la grandeur du cinéma muet, on sait l'intérêt qu'aura Lubitsch pour l'opérette, mais y compris pour l'opéra et pour l'opéra comique, puisqu'il y a même un Carmen. L'étonnant monsieur Lubitsch, la période allemande, en partenariat avec la fondation Murnau. C'est jusqu'au 25 novembre à la fondation Jérôme Sédou, Pathé 73, avenue des Gobelins à Paris. On signalera aussi à partir de mardi prochain et jusqu'au 7 janvier à l'Institut Lumière à Lyon, une rétrospective Alain Cavalier, à ne pas rater. Comme d'habitude, avec Cavalier, le 20 novembre, le cinéaste, ou plutôt le filmeur, présentera deux des 6 portraits XL dont il avait parlé dans Plan Large à La Rochelle le 1er juillet, les portraits de Daniel et de Léon. Et puis on salue Agnès Varda, qui est aujourd'hui à Los Angeles pour recevoir un très mérité Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Tanguy Le Corneau pour le reportage à la Cinémathèque française et Pierre-Henri en studio. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisé par Somani Na. La semaine prochaine, nous nous plongerons dans l'œuvre de Chantal Akerman avec Corinne Rondeau, qui vient de signer un essai sur l'artiste cinéaste Chantal Akerman, Passer la nuit. Il y aura aussi Claire Atherton, la monteuse et collaboratrice pendant plus de 30 ans de Chantal Akerman. En attendant, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.